Catéo Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson.
Et tous les chemins de la pensée du prêtre aboutissaient à la conclusion, aussi, que Jésus-Christ était l'incarnation de ce Dieu souverain, ayant prouvé sa divinité par sa mort, sa résurrection et la suite miraculeuse de son Église jusqu'à Jean, son dernier vicaire. Toutes ces choses étaient comme des vertèbres de l'univers, des faits supérieurs au doute, immuablement vrais. Si ces choses n'étaient pas vraies, c'est que rien, nulle part, n'était qu'un vain rêve. Des difficultés ? Oui, certes, il y en avait, et en très grand nombre. Ainsi, le jeune prêtre ne comprenait aucunement pourquoi Dieu avait fait le monde tel qu'il était, ni comment le pain était transsubstantié en corps vivant de Dieu. Mais ces choses étaient, tout simplement. Percy songeait au voyage qu'avait fait son esprit depuis le jour où, dans son ardeur juvénile, il avait cru que toute vérité divine pouvait être démontrée dans le domaine intellectuel. Maintenant, il avait appris, pour toujours, que le naturel en appelait au surnaturel, que la pauvre raison humaine, assurément, n'était pas en état de contredire les mystères de la religion, mais qu'elle ne pouvait les prouver adéquatement qu'en admettant, d'abord, la révélation comme un fait, c'est-à-dire en se plaçant à un point de vue où l'âme écoute docilement la foi et l'esprit divin. Jamais il ne s'était rendu compte de l'innombrable quantité des objections que pouvait faire naître le dogme chrétien. Quand on le considérait du dehors, à la lumière d'une certaine critique nécessairement condamnée à n'en laisser voir qu'une apparence trompeuse. Et jamais, non plus, il n'avait mieux senti la profonde inanité, le néant éternel et fatal de ses objections. Ainsi, la fermeté de sa foi apparaissait-elle à Percy décidément assurée et inébranlable. En présence de la catastrophe qu'il prévoyait imminente, il songeait avec joie que, du moins, son âme serait à l'abri de la destruction. Mais sous cette certitude confiante de son cœur de croyant, il y avait sa curiosité d'homme, de témoin étonné du spectacle de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tout cela était-il permis ? Comment était-il concevable que Dieu n'intervînt pas et que le Père des hommes autorisât la race tout entière de ses enfants à se soulever contre sa personne ? Que comptait-il faire ? Est-ce que ce silence continu ne se romprait jamais ? Est-ce que ces millions d'âmes de toutes les nations qui naissaient et mouraient dans le blasphème, est-ce qu'elles n'étaient point, elles aussi, les agneaux de son troupeau ? À quoi donc était destinée l'Église catholique si ce n'était pas à convertir le monde ? Et pourquoi, en ce cas, le Dieu Tout-Puissant avait-il permis à cette Église de se trouver réduite à une poignée de fidèles, tandis que, d'autre part, le monde trouvait sa paix en dehors d'elle et de lui ? En face de soi, Percy revoyait le monde, cette folie qui s'était emparée des peuples, les histoires étonnantes que le téléphone venait de lui apporter. À Paris, des hommes et des femmes, avec l'ivresse mystique des anciennes bacchantes, s'étaient percé le cœur publiquement sur la place de la Concorde, en criant à une foule non moins enthousiaste qu'ils avaient assez longtemps vécu et ne pouvaient point survivre aux délices de cette divinisation définitive de l'humanité. À Séville, dans un concert, une danseuse célèbre était morte de joie, au milieu d'une figure de ballet, en apprenant l'acceptation de Felsenburg. Dans une vallée des Pyrénées, ce matin même, tous les catholiques avaient été crucifiés par les paysans que leur excès d'allégresse avait tout à coup rendu furieux. En Allemagne, trois évêques avaient abjuré. Et ceci, et cela, et mille horreurs qui s'étaient produites trop rapidement pour pouvoir être prévues ou arrêtées. Et Dieu continuant à ne faire aucun signe, à ne dire aucun mot. Il y eut un petit coup à la porte. Et Percy, brusquement redressé, vit entrer de nouveau le vieux cardinal. Le vieillard paraissait horriblement usé. Ses yeux avaient une sorte d'éclat profond qui révélait de la fièvre. D'un petit geste, il invita Percy à s'asseoir. Et lui-même s'assit dans un fauteuil, tremblant un peu et rassemblant ses pieds, bouclés d'argent, sous sa soutane noire aux boutons rouges. « Il faut que vous m'excusiez, mon enfant. Je suis anxieux pour la sécurité de l'évêque. Il devrait être ici à 7 heures. » Il s'agissait de l'évêque de Southwark, qui avait quitté l'Angleterre dans la matinée de ce jour. Il avait bien promis de venir tout droit à Rome, Éminence. Oui, il devrait être ici depuis 23 heures. C'est bien minuit qui sonne, n'est-ce pas ? En effet, on entendait les tintements des horloges. Tout était très calme à présent. Dans la journée, l'air avait été vibrant de clameurs et de bruits. La foule des Romains s'était promenée par les rues, commentant la grande nouvelle. Et d'autre part, on disait que des bandes d'ouvriers des faubourgs avaient réussi à se glisser dans la ville en chantant des refrains anti-religieux. Mais de très bonne heure, les portes avaient été fermées. L'incident pouvait tout au plus inquiéter comme un indice de trouble à venir. Après quelques minutes de silence, le cardinal parut commencer à se remettre de son épuisement. « Vous paraissez fatigué, mon père, » dit-il à son jeune ami d'un ton affectueux. Percy sourit. « Et votre éminence ?» demanda-t-il. Ce fut au tour du vieillard de sourire. « Oh moi, » dit-il, « je n'en ai plus pour longtemps. Et ensuite, mon père, ce sera à vous de souffrir. » Percy sursauta vivement, épouvanté. « Mais oui, » reprit le cardinal. « La chose est déjà arrangée avec le Saint-Père. C'est vous qui me succéderez. Inutile d'en faire un secret. »« Éminence, » murmura Percy d'une voix implorante. Mais le vieillard l'arrêta, d'un geste de sa maigre main ridée. « Oh, je comprends ce qu'il en est, » dit-il doucement. « Vous préfériez mourir, n'est-ce pas, et rester en paix ? Il y en a bien d'autres, allez, qui désirent cela. Mais il faut que nous souffrions d'abord. Et pati et mori, père Franklin. » Il faut accepter l'épreuve sans hésiter. Une fois de plus, un long silence suivit. La nouvelle qui venait d'être révélée à Percy était trop imprévue et trop surprenante pour produire en lui autre chose que la sensation d'un choc douloureux. Jamais l'idée ne lui était venue que lui, un homme de moins de 40 ans, pût être considéré comme le successeur désigné de ce sage et patient vieux prélat. Et quant à l'honneur de la chose, Percy, maintenant, était bien au-dessus de toute ambition personnelle. Il n'apercevait devant lui qu'une seule perspective, un long et cruel voyage sur un chemin qui grimpait à pic et avec les épaules chargées d'un fardeau trop pesant pour elle. Cependant, il se rendit compte bientôt que le fait annoncé était inévitable. Cela devait être et il n'avait rien à dire. Mais c'était comme si un abîme de plus s'était ouvert devant lui. Et il en contemplait le fond avec une horreur muette, inexprimable. Le cardinal fut le premier à rompre le silence. « Père Franklin, » dit-il, « j'ai vu aujourd'hui un portrait de Felsenburgh. Savez-vous de qui j'ai cru d'abord que c'était l'image ?» Percy eut un sourire triste. « Mais oui, mon père, » reprit le vieillard, « j'ai pris ce portrait pour le vôtre. Et maintenant, que pensez-vous de cela ?»«
Je n'en pense rien et je n'y comprends rien, votre éminence. »«
Eh bien,
mais il s'interrompit et, tout à coup, changea de sujet. « Il y a eu un assassinat dans la cité tout à l'heure, » dit-il. « Un catholique a poignardé un blasphémateur. » Percy, effrayé, releva les yeux. « Oui, et l'assassin n'a pas essayé de fuir, » poursuivit le vieillard. « Il est en prison. » Et il sera exécuté. Le procès commencera ce matin même. C'est bien triste. Le premier meurtre depuis plus d'un an. » L'ironie de la situation apparaissait clairement à Percy. Pendant que, immobile au fond du fauteuil, il recueillait le silence répandu dans la nuit étoilée. Il songeait à cette pauvre ville affectant que rien n'était changé, continuant à administrer ses procédés surannés de justice traditionnelle sous la risée du monde. Et là-bas, au dehors, sans cesse grandissaient et se concentraient les forces qui allaient mettre fin à ce pauvre jeu. Son enthousiasme de naguère semblait mort en lui. Il ne frémissait plus d'admiration à la pensée du splendide mépris des faits matériels qui, jusqu'alors, lui avaient semblé si beaux et si émouvants. Il avait l'impression d'un homme observant une mouche qui repose sur le cylindre d'une machine en mouvement. Un clin d'œil et la roue énorme aura tourné, écrasant la petite vie de l'insecte. Et cependant, l'homme qui observe se sent hors d'état d'intervenir. Ainsi, le surnaturel se montrait à Percy, vivant encore, et aussi parfait que jamais, mais réduit aux proportions d'un point minuscule, et des forces immenses étaient en mouvement. L'univers se soulevait. Et Percy ne pouvait rien faire que regarder et trembler. Et pourtant, comme il se l'était dit encore tout à l'heure, il n'y avait pas une ombre sur sa foi. Il savait que la mouche, dans l'ordre de la vie, était plus grande que la gigantesque machine. Si bientôt elle se trouvait écrasée, ce n'est point sur elle que tomberait la souffrance suprême. Mais au-delà de cette certitude, tout était pour lui incertain et sombre. On entendit un bruit de pas, un petit coup sur la porte et un serviteur entra. Sa grandeur est arrivée, éminence, dit-il. Le cardinal se releva péniblement en s'appuyant à la table. Sur le point de sortir de la chambre, il s'arrêta, parut se rappeler quelque chose et chercha dans sa poche. Regardez ceci, mon père, dit-il en tendant au prêtre un petit disque d'argent. « Non, pas maintenant. Attendez que je sois parti. » Percy referma la porte et revint s'asseoir pour examiner le petit objet rond. C'était une pièce de monnaie, toute fraîchement frappée. Sur une des faces était l'emblème maçonnique habituel, avec les mots « un franc » gravés au centre, en langue espéranto. Et sur l'autre face se voyait le profil d'un homme avec cette inscription « Julien Felsenburgh, président de l'Europe. » À 10h, le matin suivant, les cardinaux furent convoqués dans les appartements du pape, qui avait à leur faire une allocution. Percy, de sa place parmi les consulteurs, voyait entrer les cardinaux et autres prélats, hommes de nation, de tempérament et d'âge divers, les latins gesticulants, découvrant des dents brillantes, les germains sérieux et recueillis, un vieux cardinal français appuyé sur sa canne et s'avança au bras du bénédictin anglais. La salle était une des grandes pièces, simples et nues, qui remplaçaient à présent les anciennes chambres du Vatican. Elle avait la forme d'une chapelle avec des rangées de sièges sur toute son étendue. Près de l'autel, sous un dais, s'élevait le trône pontifical. Percy n'avait aucune idée de ce qui allait être dit. Comment s'attendre à des déclarations précises et définies en présence d'une situation encore aussi incertaine? Tout ce que l'on savait, jusqu'à cette heure, c'était la confirmation de la nouvelle d'une présidence de l'Europe, confirmation suffisamment établie déjà par la petite pièce d'argent. On disait aussi qu'il y avait eu de toutes parts une brusque poussée de persécution, aussitôt réprimée par les autorités locales. Et le bruit courait que Felsenburgh, dès ce jour, allait commencer sa tournée de capitale en capitale. On l'attendait à Turin pour la fin de la semaine. De tous les centres catholiques du monde, des messages affluaient, implorant des instructions, On y lisait que l'apostasie se soulevait comme un énorme flux de marée, que partout la persécution menaçait, que même des évêques commençaient à chanceler. Quant aux intentions du Saint-Père, tout était douteux. Ceux qui savaient ne disaient rien. Et la seule chose qui se fût divulguée était que le pape avait passé toute la nuit en prière au tombeau de l'apôtre. Subitement, le murmure de la salle s'éteignit et tous les regards se tournèrent vers un même point. Un instant après, Jean, pater patrum, était installé sur son trône. Au premier moment, Percy ne chercha pas même à comprendre. Il considérait comme une peinture, dans la grande lumière poussiéreuse qui venait des hautes fenêtres, les lignes écarlates se dessinant des deux côtés et se continuant jusqu'à l'énorme baldaquin écarlate où se trouvait assise la figure blanche. Certes, ces méridionaux avaient la notion du pouvoir effectif de la mise en scène. Tous les accessoires étaient somptueux, imposants. L'élévation des murs, les couleurs des robes, les chaînes et les croix, et cet aboutissement des couleurs et des ors à une petite forme blanche, comme si la gloire terrestre s'épuisait et se déclarait impuissante à dire le suprême secret. L'écarlate et la pourpre et l'or, cela convenait à ceux qui se tenaient sur les degrés du trône, cela leur était nécessaire. Mais quant à celui qui était assis sur le trône, il n'avait pas besoin de ce luxe mortel. Et cependant, quelle expression merveilleuse apparaissait dans ce beau visage ovale, ce port impérieux de la tête, ce doux éclat des yeux, ces lèvres nettement découpées qui promettaient une parole vigoureuse. On n'entendait pas un bruit dans la salle, pas un souffle, ni un mouvement. Et au dehors même, on aurait dit que le monde se taisait pour permettre au surnaturel d'exposer, en paix, sa défense, avant de proclamer bruyamment la condamnation. Mais Percy fit un violent effort pour concentrer son attention et, les poings serrés, il écouta. Or, puisqu'il en est ainsi, mes fils en Jésus-Christ, c'est à nous de répondre. Comme nous l'enseigne le docteur des gentils, nous ne luttons point contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre l'esprit du mal dans les hauts lieux. Et c'est pourquoi, nous dit encore l'apôtre, armez-vous de l'armure de Dieu. Et de cette armure, il nous en explique l'espèce, la ceinture de la vérité, le bouclier de la justice, les souliers de la paix, l'écussion de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Voilà donc avec quelles armes la parole de Dieu nous ordonne de combattre, mais non pas avec une épée, car, en vérité, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. C'est pour vous rappeler les principes de cette lutte que nous vous avons rassemblés en notre présence. La voix s'arrêta. Il y eut un mouvement général. Le long des sièges, comme un unanime soupir après un effort trop tendu. Puis la voix reprit, sur un ton un peu plus élevé. Il a toujours convenu à la sagesse de nos prédécesseurs, comme aussi il a toujours été leur devoir, tandis qu'ils gardaient le silence à certains moments, d'exprimer en toute liberté et à d'autres moments la parole entière de Dieu. De ce devoir, il ne faut pas que nous soyons, nous-mêmes, détournés par la notion de notre propre faiblesse et ignorance. Mais plutôt, il faut que nous ayons confiance que celui qui nous a placés sur ce trône daignera parler par notre bouche et faire servir nos paroles à sa gloire. En premier lieu, donc, il est nécessaire que nous fassions connaître notre sentiment sur ce mouvement nouveau comme on l'appelle, qui a été inauguré de nos jours par les maîtres du monde. Certes, nous ne négligeons ni ne dédaignons les bénédictions de la paix et de l'union. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier que la présente apparition de ces choses sur la terre a été le fruit de maintes autres choses que nous avons condamnées. Et c'est cette apparence de paix qui a trompé maints hommes, les amenant à douter de la promesse du prince de la paix. Que c'est par lui seul que nous aurons accès au Père. Cette paix véritable qui doit être donnée ne concerne pas seulement les relations des hommes entre eux, mais aussi les relations des hommes avec leur Créateur. Et c'est sur ce point nécessaire que les efforts actuels du monde se trouvent avoir échoué. Et en vérité, il n'est pas étonnant que dans un monde qui a rejeté Dieu, ce sujet essentiel soit perdu de vue. Les hommes pervertis par des séducteurs ont pensé que l'unité des nations était le bien le plus précieux de cette vie, oubliant les paroles de notre Sauveur, qui a dit qu'il ne venait point pour apporter la paix, mais un glaive, et que ce n'était qu'à travers bien des tribulations que nous pourrions entrer au royaume de Dieu. Et d'abord, donc, il convient d'établir la paix de l'homme avec Dieu. Après quoi, l'unité de l'homme avec Dieu s'ensuivra. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit Jésus-Christ, et alors toutes ces choses vous seront données par surcroît. En premier lieu, donc, nous condamnons et anathémisons une fois de plus les opinions de ceux qui croient et qui enseignent le contraire de cela. Et nous renouvelons une fois de plus les condamnations prononcées par nous-mêmes ou nos prédécesseurs contre toute société, organisation ou communauté qui ont été formées pour établir l'unité sur d'autres fondements qu'un fondement divin. Et nous rappelons à nos enfants, à travers le monde entier, qu'il leur est défendu d'entrer dans une quelconque de ces associations, ou de l'aider, ou de l'approuver d'une manière quelconque. Percy s'agita sur son banc, avec une ombre d'impatience. Certes, la manière était superbe, tranquille et imposante, comme le courant d'un grand fleuve. Mais la matière, le fond, lui semblait un peu bien banal. Dans des circonstances comme celle-là, recommencer simplement l'ancienne réprobation de la franc-maçonnerie ? En second lieu, poursuivit la ferme voix, nous désirons vous faire connaître nos intentions pour l'avenir. Et ici, nous allons avoir à aborder un terrain qui risque d'être considéré comme dangereux. De nouveau, un remuement sourd de toute la salle. Percy vit trois ou quatre cardinaux se pencher en avant, la main en trompette contre l'oreille, pour mieux entendre. Évidemment, quelque chose d'important allait venir. Il y a bien des points, continua la haute voix, dont il n'est pas dans notre volonté de parler à cette heure, les uns étant secrets par leur nature propre et les autres ayant à être traités dans d'autres occasions. Mais ce que nous disons ici, nous le disons au monde entier, parce que les assauts de nos ennemis sont à la fois publics et secrets. Telle aussi doit être notre défense. Voici donc quelles sont nos intentions. Le pape s'arrêta, éleva une main jusqu'à sa poitrine et machinalement, saisit la croix qui y était suspendue. L'armée du Christ, tout en étant une, consiste en maintes divisions dont chacune a sa fonction et son objet particulier. Dans les temps passés, Dieu a fait naître des compagnies de ses serviteurs afin de remplir telle ou telle tâche spéciale. Les fils de Saint François afin de prêcher la pauvreté. Les fils de Saint Bernard, afin d'unir le travail à la prière, pendant que de saintes femmes s'adonnaient à la même destination. La Société de Jésus pour l'éducation de la jeunesse et la conversion des païens. Et puis, pareillement encore, tous ces autres ordres religieux dont les noms sont connus à travers le monde. Chacune de ces compagnies a surgi à ce moment particulier où son intervention était nécessaire. Chacune a noblement répondu à sa vocation divine. Et chacune a eu aussi cette gloire de renoncer à tous les modes d'activité, même très bons en soi, qui pouvaient l'empêcher dans l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelée, suivant en cela cette parole de notre Rédempteur. Toute branche qui porte du fruit, je l'émonde pour qu'elle puisse porter plus de fruits. Or, au moment où nous sommes, il apparaît à notre humilité que tous ces ordres existants, que nous louons et bénissons une fois de plus, ne sont point parfaitement appropriés, de par les conditions de leurs règles respectives, à s'acquitter de la grande tâche que requiert ce temps. Car notre lutte n'est point dirigée en particulier contre l'ignorance, que ce soit celle des païens à qui l'Évangile n'est pas encore arrivé, ou celle des hommes dont les pères l'ont rejeté. Notre lutte n'est point dirigée en particulier contre les décevantes richesses de ce monde, ni contre la fausse science, ni contre aucune de ces forteresses de l'infidélité contre lesquelles nous avons combattu dans le passé. Il semblerait plutôt que le temps est enfin venu dont parlait l'apôtre quand il disait que le grand jour ne viendrait pas avant que se produisît d'abord un grand reniement et avant que se révélât cet homme du péché, ce fils de la perdition, qui s'opposerait et s'exalterait par-dessus tout ce qui est appelé Dieu. Ce n'est pas contre telle ou telle force particulière que nous avons à lutter, mais contre l'immensité désormais dévoilée de ce pouvoir dont le temps nous a été prédit et dont la destruction est éternellement préparée.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.